Histoire de peinture. Aujourd'hui, heures et malheurs de l'anachronisme.
L'anachronisme est vraiment, je crois, un des aspects les plus intéressants et les plus problématiques pour la réflexion sur l'histoire de l'art aujourd'hui. Et très précisément, parce que l'historien a toujours été anachronique par rapport à son objet, mais je dirais que les conceptions actuelles, récentes, on va dire des 30 dernières années, de réception des œuvres d'art, font que la question de l'anachronisme de l'historien par rapport à son objet est particulièrement intéressante et je dirais excitante. Excitante. Alors évidemment, je suis historien et donc ma première position, c'est que un des principes, presque une déontologie de l'historien, c'est de tenter d'éviter, et je dis bien tenter d'éviter le plus possible l'anachronisme. C'est vrai, c'est, je crois, une caractéristique de toute histoire, et aucun historien ne se réclamera de l'anachronisme en disant « je fais de l'anachronisme et j'en suis fier, j'en suis heureux, c'est mon métier d'historien ». Un artiste a le droit, je dirais même un philosophe a le droit, c'est même peut-être son devoir, que justement de sortir l'objet du passé de son temps pour précisément le faire vivre aujourd'hui à partir des questions d'aujourd'hui. C'est le rôle du philosophe, je dirais c'est le rôle du poète, de l'artiste, etc. Mais l'historien, lui, a cette étrange contrainte, assez excitante intellectuellement, de prétendre tenter d'éviter ce qui est en fait constitutif même de sa relation à l'objet. Alors, un exemple, qu'est-ce que c'est que cet anachronisme à éviter? Alors, on va aller du plus simple au plus complexe, on va dire. Par exemple, dire que Raphaël, tout le monde connaît Raphaël, dire que Raphaël est un artiste du XVIIIe siècle, c'est une erreur que même un étudiant de premier cycle n'a plus le droit de faire au bout de 15 jours de cours. Un autre exemple, un peu plus complexe, parler de réalisme, par exemple, en peinture, avant Courbet, me paraît, en ce qui me concerne, un anachronisme grave, parce que la notion de réalisme, qui, entre parenthèses, apparaît dans la langue française seulement au début du XIXe siècle. Et réalisme, prenez le dictionnaire historique de la langue française, la première définition du réalisme, c'est la théorie des idées selon Platon. Et ensuite, seulement, avec Courbet, il y a eu quelques emplois avant Courbet, mais c'est en 1855 que Courbet fonde l'emploi du réalisme dans l'histoire de l'art, avec un contenu précis qu'il explicite, et qui est sa propre théorie. On me traite de réaliste, eh bien soyons réalistes, il explique ce que c'est que le réalisme. Parler alors du réalisme de Giotto, qu'on trouve dans un nombre de livres en histoire de l'art considérable, c'est, à mon avis, ne pas comprendre que Giotto s'intéresse au réel, que Giotto ait une autre conception du réel, un désir de représenter le réel autrement que la Duccio ou que la Cimabue, certainement. Mais c'est pas du réalisme. Ou alors on ne comprendra plus pourquoi Courbet dit « je suis réaliste et j'en suis fier ». Bon, un autre exemple, c'est les frères Lenain. Les frères Lenain, c'est ces grands peintres du 7e siècle français. Parler de réalisme à leur sujet est particulièrement inadéquat, puisque si vous avez en mémoire quelques tableaux des frères Lenain, ce sont évidemment des tableaux parfaitement composés, statiques, composés sur le principe de la frise de la peinture d'histoire, où par exemple, dans un intérieur de paysan, vous aurez une table basse tout à fait normale de paysan, et dessous une très belle nappe blanche avec des plis. Irréalisme complet. Le problème, c'est non pas dire les Lenains sont réalistes, non, c'est comment les Lenains se situent-ils par rapport à la représentation de la réalité, et pourquoi anoblissent-ils la représentation caravagesque ou flamande du paysan. Et à ce moment-là, on a une idée de la noblesse du réel chez le nain qui n'a rien à voir avec la notion de réalisme telle qu'on l'emploie si on parle du réalisme des nains. D'ailleurs, au départ, quand on a redécouvert le nain, on parlait de peintre du réel, ce qui était beaucoup plus intéressant. Un autre exemple qui me tient à cœur, je n'aurais fini avec ces exemples d'anachronisme à éviter, c'est parler par exemple de propagande à propos des grands cycles de fresques ou des grands décors princiers ou royaux, ou à Versailles. Dire que Versailles, c'est la propagande. Ou que la galerie François Ier à Fontainebleau, c'est la propagande. Alors, il est vrai que François Ier recevra Charles Quint à peine sa galerie est-il finie, pour lui montrer que, bon, ben, il s'est bien sorti de sa prison où Charles Quint l'avait enfermé pendant 2 ans, et que la puissance du prince François Ier n'a pas été atteinte par sa prison. Mais c'est pas la propagande. C'est un message politique de prince à prince. La propagande, étymologiquement, ça veut dire diffuser par un moyen ou par un autre, audio ou visuel, un message politique destiné à convaincre un certain nombre de gens. Bon, je dirais qu'on peut parler de propagande dans l'histoire de l'art à partir du moment, par exemple, où les protestants Hein, les luthériens utilisent la gravure, hein, la gravure volante, la feuille volante, pour diffuser des images antipontificales. À ce moment, on peut dire qu'effectivement, il y a un véritable travail de propagande de la part des luthériens. Mais dire qu'un tableau d'autel, hein, ou qu'un cycle de fresque, qui est toujours in situ, hein, dire qu'il fait de la propagande, non. Pour qu'il fasse la propagande, il faut à ce moment-là, par exemple, qu'on le reproduise sous forme de gravure. Et à ce moment-là, on pourra aller éventuellement de propagande par le biais de la gravure. Et puis le dernier exemple, ça, on va avancer. Il y a un anachronisme, moi, qui me gêne beaucoup parce qu'il est très très répandu. C'est celui qui consiste à faire la psychologie des artistes, hein, à faire la psychologie de Michel-Ange, la psychologie de Léonard de Vinci, par exemple. Eh bien, si le mot psychologie a un sens précis, je crois, et actuel, hein, moderne, on va dire, du XXe siècle, XXIe siècle, je crois qu'il prend ce sens à partir de la fin du XVIIIe siècle, et en particulier à partir de Rousseau. Je crois qu'un des inventeurs de la psychologie au sens moderne, c'est Rousseau avec les confessions. Les confessions de Rousseau sont vraiment un monument de psychologie, c'est-à-dire l'idée que le comportement et les réactions psychiques d'un individu sont liées à son histoire, une condition narrative et historique de la constitution de la personnalité, de la psychologie. Auparavant, au XVIIe siècle, regardez ce que veut dire psychologie, le mot apparaît au XVIIe siècle dans la langue française, il veut dire science de l'apparition des esprits. Hein, donc, pareil de psychologie chez Racine, je crois que c'est une grave erreur. Il y a autre chose. C'est pas que ces gens n'avaient pas une activité psychique, ni un psychisme structuré, mais ils n'étaient pas structurés, ils n'avaient pas conscience de leur psychisme en fonction de la psychologie qui, en fait, apparaît fin XVIIIe et se développe surtout au XIXe siècle. C'est le grand siècle de la psychologie. À ce moment-là, on peut faire la psychologie d'un artiste du XIXe siècle parce qu'il se pensait lui-même en termes de psychologie. Mais parler de psychologie pour Racine, nous parler de psychologie pour Michel-Ange ou pour Léonard, eh bien, c'est passer vraiment à côté de la cible. Parce que ces gens-là se pensaient eux-mêmes, ou pensaient leur psychisme, non pas en termes de psychologie, c'est-à-dire de développement historique de la constitution d'une personnalité, mais en fonction de tempérament, d'humeur, d'astrologie et de caractère. Le grand point étant la différence entre le tempérament et le caractère. Le tempérament, c'est cet équilibre qu'on a reçu par la nature des quatre humeurs qui constituent tout le aussi bien le microcosme que le macrocosme. Et c'est ce qu'on reçoit au départ, ce tempérament. On est sanguin, on est bilieux, on est mélancolique, etc. Et le caractère, comme l'indique l'origine du terme, c'est ce qui s'imprime par l'histoire sur ce tempérament. Mais le caractère s'imprime sur un tempérament. C'est la transformation d'un tempérament par l'expérience. Mais c'est le tempérament qui demeure la véritable dimension psychique. Et quand vous avez une tentative à la fin du XVIe siècle de rapporter les formes d'art, les styles de peinture au tempérament des artistes, c'est l'idea del tempio e pittura de Lomazzo en 1500, je crois, 1500, les années 1580 pour aller vite, eh bien, il y a 7 gouverneurs de l'art et chacun gouverné par une planète. C'est-à-dire que les styles correspondent au caractère de la planète. Titien, il me semble rappeler, c'est la Lune. Et le style de Titien correspond à l'influence de la Lune sur une pratique artistique. Eh bien, je veux dire, aujourd'hui, des gens pensent que l'astrologie est toujours une dimension explicative. Ils ont tout à fait le droit. Mais disons qu'on a tendance aujourd'hui à privilégier l'approche psychologique pour expliquer les formes prises par l'art de tel ou tel. C'est légitime, je dirais, aujourd'hui. C'est une approche contemporaine. Mais si on veut se demander comment est-ce que Titien ou comment est-ce que Michel-Ange ou Léonard pensaient sa propre psyché de manière à ce que cette pensée s'exprime dans son œuvre, la propre psychologie, c'est un anachronisme, qui, là, doit être évité, le plus possible doit être évité, si possible absolument, parce qu'en fait, il fausse les données du problème. Et donc, on a un problème faussé, on n'a pas une bonne réponse. Donc, il y a un autre, hein, puis je passe à, après, la lutte des classes. L'idée de lutte des classes, hein, dans l'histoire de la peinture, avant le 19e siècle, est une charmante utopie. Je pense ici au livre de Arnold Hauser, hein, l'histoire sociale de l'art, qui est un magnifique livre, hein, ce splendide livre d'intelligence, d'une culture extraordinaire, faux, pratiquement de A à Z, hein, parce qu'il a imaginé qu'il y avait une des classes au 15e siècle et que Masaccio représentait la bourgeoisie conquérante par rapport à l'Église. Hélas, les commanditaires de Masaccio, bah, c'était un cardinal, donc c'est étrange, hein, comme la volonté de démontrer qu'on détient la clé de la vérité peut aboutir à des incompréhensions graves. Alors, cela dit, je dis l'éviter, oui, ce genre d'anachronisme, on peut tenter de l'éviter, j'ai bien tenté d'éviter, faire tous ces efforts comme historien pour tenter de l'éviter, mais je maintiens aussi ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire que l'anachronisme est constitutif de la relation de l'historien à son objet. L'histoire du contemporain est un problème très intéressant que je n'aborde pas. Mais dès lors qu'on n'est pas un historien du contemporain, on a inévitablement un problème, et constitutivement une question d'anachronisme par rapport à son objet. Et je dirais qu'on l'a en particulier en histoire de l'art. Et en histoire, dès lors que les objets de l'historien de l'art, ce sont des objets concrets. des objets matériels, et qu'il s'agisse de peinture ou de sculpture, l'objet de l'historien de l'art, c'est un objet qui lui-même est anachronique. En lui-même est anachronique. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Cette formule peut être apparemment obscure. Mais simplement que tout objet d'art mélange les temps. Anachronisme, hein, c'est mélanger les temps, c'est confondre les temps. Tout objet d'art qui a déjà un certain degré d'existence dans l'histoire, hein, donc la plupart des œuvres d'art, bien mélange trois temps minimum. Il mélange, le premier temps, je dirais, c'est le nôtre. Il est présent ici, aujourd'hui. Alors, on peut faire l'histoire de l'art d'œuvres disparues. Il y a des gens qui sont passionnés par ça, et ils se servent de descriptions littéraires, choses comme ça, et ils font l'histoire de ce qui a disparu. C'est très intéressant, ce n'est pas celle qui m'intéresse, moi, au premier chef. Le premier temps auquel appartient l'œuvre d'art, c'est celui où elle est maintenant, hein, elle est ma contemporaine. Et c'est important, on verra, parce qu'elle agit sur moi. C'est-à-dire, cette présence physique, elle compte. C'est-à-dire que le petit jugement de Paris de Watteau, par exemple, qui fait, je crois, 30 cm sur 17, quelque chose comme ça, son aspect minuscule compte, hein, pour l'effet qu'il fait sur moi. Alors que le grand jugement de Paris de Rubens de 3,50 m sur 2,50 m a un effet physique tout à fait différent. Donc cette présence contemporaine de l'œuvre, elle est essentielle au premier rapport de l'historien à son objet. Donc ça, je dirais, c'est le temps 1. Le temps 2, en sens inverse, hein, c'est le temps de sa production. L'œuvre, hein, elle a été produite à un certain temps, dans un temps, hein, du passé, et dans ce temps même du passé, on va dire, prenons le XVIIe siècle, eh bien, elle mélangeait déjà des temps différents. Et ça, Faucillon l'a très bien dit. Dans les grandes œuvres d'art, il y a toujours des temporalités différentes qui se superposent et s'entrelacent. Une grande œuvre d'art mélange à la fois des éléments, je crois que le terme de Faucillon, c'est avancé, et des éléments retardataires. Hein. Et Franck Cassel a très bien dit ça aussi pour les artistes italiens du XVe siècle. Ils appartiennent à deux systèmes, et donc ils mélangent les deux. Il y a à la fois du passé et d'un présent qui prépare un futur. Donc, dans le temps même de sa production, une œuvre d'art peut très bien mélanger les temps, faire elle-même de l'anachronisme. Hein, l'idée d'une pureté du temps linéaire de l'histoire de l'art n'a pas de sens. Donc, temps 1, le temps présent, la contemporanéité. Temps 2, on peut dire l'inverse, hein, le temps de la production. Temps 3, qu'il faut jamais oublier, c'est ce qui se passe entre les deux, hein, entre le 15e siècle et le 20e siècle. Il y a 5 siècles, par exemple, maintenant on va dire le 21e, il y aura bientôt 6 siècles. Bon, eh bien, ce temps-là, il agit, hein, il appartient à l'œuvre d'art. De deux façons très simples. Matériellement, hein, une œuvre d'art porte la trace du temps qui s'est écoulé entre sa production et sa réception actuelle, hein, les craquelures, la fameuse patine, hein, des œuvres, les vernis, les accidents, les découpes, etc. Tout ça, c'est un temps qui s'est passé entre la production et la réception. Il est présent physiquement, hein, dans l'œuvre elle-même. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, je dirais, mais fascinant, parce que insinuant, subreptice et peut-être même subversif, c'est le temps mental qui s'est passé entre les deux et le fait que l'œuvre que je vois là, devant moi, accrochée sur telle paroi de musée ou de galerie d'exposition, eh bien, quand je la vois, même si c'est la première fois, en fait, je ne la vois pas pour la première fois, parce que même si je ne suis pas quelqu'un de nécessairement cultivé, je sais déjà, hein, sans le savoir, j'en ai entendu causer, comme on dit, qu'il y a eu des regards sur cette œuvre. Et ces regards déposés, hein, sur l'œuvre depuis deux siècles, trois siècles, quatre siècles, mais ils contribuent à former, à informer mon propre regard. Je donnerai deux exemples. Le premier, j'irai très vite, hein, c'est la Joconde de Léonard. Plus personne aujourd'hui, enfin, les gens, rien, plus personne d'une culture européenne ou occidentale, aujourd'hui, ne verra la Joconde sans se dire, avant de l'avoir vue, on montrera dans la salle, elle est mystérieuse. C'est un mystère. Bon, or, ce mystère date du début du 19e siècle. Hein, quand, par une regrettable erreur d'attribution, on a cru qu'une tête de méduse des offices était de Léonard de Vinci, alors qu'en fait, il était un flamand du XVIIe siècle, et que, comme on l'avait attribué à Léonard de Vinci, on a fait de la méduse le revers de la Joconde. Et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue mystérieuse, la Joconde, parce qu'elle est devenue un monstre, hein, un monstre, parce que derrière ce sourire charmant, il y avait la tête de méduse. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est ouverte entièrement l'interprétation de la Joconde, pour notre plus grand bonheur. Mais donc, toute personne en voit la Joconde se dit qu'elle est mystérieuse, hein, qu'il y a un mystère dans ce tableau, alors que le mystère, c'est comment diable a-t-on pu voir la méduse dans la Joconde? C'est ça qui est, à mon avis, le vrai mystère. Bon. L'autre exemple qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est celui de Botticelli. Botticelli est une icône hein, de la de l'histoire de la peinture italienne du XVe siècle. Et beaucoup de gens, sinon tout le monde, connaissent le nom de Botticelli et ont déjà, avant même de voir un Botticelli, ils ont une idée de Botticelli. Et cette idée de Botticelli, elle est absolument magnifique, éthérée, il y a une sensualité, une douceur, une poésie, etc. Le problème, c'est que cette image Botticelli, c'est pas du tout celle qu'on avait au XVe siècle. Au XVe siècle, on a un texte, heureusement, qui décrit les quatre plus grands peintres vivants à Florence en 1493. Alors, il y a Pérugin, Filippino Lippi, Botticelli, puis j'ai oublié le quatrième. Ce qui caractérise Botticelli pour la fin du XVe siècle, c'est pas du tout sa douceur, sa sensualité érotique, etc., sa distinction, c'est son air viril. Botticelli est un peintre, c'est l'aria viril. Bon, alors d'où vient, alors, si on dit ça aujourd'hui, petit peintre viril, ça a l'air d'être le contraire. Bon, c'est au contraire. Bon. Mais oui, mais parce que entre Botticelli du XVe siècle et nous, il y a eu l'oubli pendant quatre siècles de Botticelli, ce qui est assez intéressant. Botticelli n'était pas considéré comme un des peintres les plus intéressants au début du VIIe siècle par les Toscans eux-mêmes, puisqu'ils autorisaient l'exportation de Botticelli, alors qu'ils interdisaient l'exportation de Filippino Lippi. Donc, au début du VIIe siècle, Filippino Lippi est beaucoup plus important que Botticelli pour le grand-duc de Toscane. Donc, on a oublié Botticelli pendant quatre siècles, et puis on l'a redécouvert avec les symbolistes, les pré-raphaélites. Et donc, le Botticelli que nous avons en tête sans le savoir, c'est un Botticelli symboliste et pré-raphaélite. Et si vous voulez, c'est un des points de l'histoire de l'art que je trouve, moi, les plus passionnants. Ce qu'on appelle parfois la fortune critique, mais la fortune critique, elle est trop fondée sur les textes, le commentaire, ce qu'on a dit, des artistes, etc. Ce qui est intéressant, je trouve, ce qui est fascinant, un des aspects fascinants de l'histoire de l'art, de l'anachronisme en histoire de l'art, c'est d'essayer de prendre conscience de ce qui structure anachroniquement mon regard, non pas seulement aujourd'hui, bien sûr, parce que je suis quelqu'un d'aujourd'hui, mais à travers l'histoire même, la durée qui sépare le temps, alors ce coup-ci je dirais 1, de la production de l'œuvre, avec tous les mélanges de temps qui peuvent avoir à ce moment-là, et le temps 3, de ma réception. Entre les deux, il y a cette durée dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses mentales, beaucoup de choses, une histoire du regard, et je pense qu'une histoire du regard est aussi une des dimensions qui devrait se donner à l'histoire de l'art. Faire cette histoire du regard avec toutes les pratiques qu'implique le regard, parce que le regard, ça touche. D'ailleurs, le regard touche les œuvres, et la preuve, c'est qu'on les a découpées, on les a repeintes, on les a brûlées, etc. Parce que le regard peut être touché, et il peut toucher. Donc voilà, cet anachronisme-là, je pense que c'est un des points, je trouve, les plus intéressants, et qui fait justement qu'il est légitime que l'historien, non seulement se pose la question de l'anachronisme, mais d'une certaine manière se situe par rapport à l'anachronisme de l'œuvre elle-même. L'anachronisme, c'est celui d'historien, mais c'est aussi celui de l'œuvre qui mélange les temps et les durées de l'histoire.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Yves Lehorse, Jean-Michel Bernot, Jean-Claude Loiseau.